Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver jeudi 30 avril. J'espère que vous allez bien. Bonjour Gilles Ganzmann.
Mais oui, 30 avril, vous vous rendez compte, hein?
Et oui.
Il est loin le 17 mars, enfin le 16 et le 17 mars.
Et oui, et puis on va être encore confinés un bon moment, on va en reparler à 11h, on va voir ces histoires de zones rouges, de zones vertes, on ne sait pas très bien qui sera en vert, qui sera en rouge, est-ce qu'on pourra bouger d'une zone à l'autre. Bref, on en parlera à 11h, on parlera également de ce chômage qui frappe un grand nombre de gens, chômage partiel, est-ce que c'est un risque que ça se transforme en chômage longue durée, on en parlera avec vous. Et puis, bah, nous, on va recevoir Stéphane Bern dans un instant. Ah. Stéphane Bern qui a deux actualités. Une cérémonie de l'Eurovision un petit peu particulière. On va voir ça avec lui. Et puis, cette émission sur le Baron Haussmann ce soir avec des effets spéciaux incroyables.
Formidable.
Vraiment,
ouais.
C'est vraiment extrêmement bien fait. Donc, on sera en ligne avec lui dans un instant. À 10h30, on va parler coiffure. C'est pour vous, Gilles. Vous attendez
oui,
avec impatience le retour
oui,
des coiffeurs.
Sur les côtés, hein, vous vous rendez
oui,
pas
oui,
compte.
Faut,
il y a un peu de travail.
Il y a de l'entretien. Donc c'est Alain Vio qui est le PDG des salons de coiffure Mots Air et Lucie Sinclair qui sera avec nous, qui va nous raconter comment on adapte les salons de coiffure au Covid et puis une opération de solidarité puisqu'ils vont reverser, ils feront 30% pour les soignants et puis un médecin également sera avec nous de l'hôpital Robert Debré, un pédiatre, pour parler donc de cette nouvelle affection qui serait en lien, on ne sait pas encore, avec le Covid-19. On en parlera tout à l'heure. Les audiences d'hier, qu'avez-vous regardé à la télévision? Vous avez regardé quoi, vous, Gilles, hier?
Ah, moi, je suis un fan de Top Chef, donc j'ai regardé Top Chef, où c'était la guerre, vous savez, des restaurants, c'est une super épreuve où ils transforment un restaurant. Mais pour ceux qui vont regarder en replay, je ne vais pas spoiler, mais il y a une élimination surprise.
3 683 000 téléspectateurs, 15,7% de part d'audience.
Incroyable.
Très très bon score pour Top Chef. TF1 fonctionne plutôt très bien. Ils sont arrivés en tête avec la série médicale The Resident, 100 000 téléspectateurs de moins que pour le lancement la semaine dernière, mais c'est toujours un très bon score pour cette nouvelle série. 4 639 000 téléspectateurs, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai zappé dessus. Franchement, dans un hôpital, ça ne me disait rien du tout. Peut-être que c'est très bien. Dites-nous ce que vous en avez pensé. France 2, réunion avec Laetitia Milo qu'on avait reçue, une audience plutôt stable, 3 229 000 téléspectateurs, 11,8% de part d'audience. Et puis la carte au trésor qui est arrivée en quatrième position, 2 672 000 téléspectateurs, 10,9% de part d'audience. Diabolomante, c'était hier après-midi, je ne sais pas si vous avez regardé. Voilà, 2 025 000 téléspectateurs. A signalé un bon score pour Quotidien qui recevait Marina Karadankos, 1 915 000 téléspectateurs. Ce soir, chez Baba, ça ne décolle toujours pas. 642 000 téléspectateurs.
Et en tout cas, ils ont bien changé, hein, les filles de Diane Curis avec les filles et les youtubeuses ou celles qu'on voit dans la télé-réalité. Il y avait un vrai décalage, hein.
Ça, c'est sûr. Et puis, Tous en cuisine avec Cyril Lignac qui est repassé devant, qui veut gagner des millions. 2 643 000 téléspectateurs. On peut dire que c'est un carton pour Cyril Lignac. Mais l'émission est vraiment, encore une fois, je trouve, extrêmement sympathique. Donc ça marche plutôt très bien.
Ça marche, c'est un carton. Hein. On verra. Et logiquement, ça s'arrête jusqu'à fin mai. Mon petit doigt me dit que je pense qu'ils essayeront d'autres cuisiniers si Cyril Lignac ne veut pas continuer, parce que la formule marche bien. Après, à savoir, est-ce que lorsque on sera plus confiné, est-ce qu'on aura toujours envie de regarder ce genre d'émission? Telle est la question.
Puis c'est vraiment une alchimie qui fonctionne plutôt bien entre Cyril Lignac, Jérôme Anthony.
Jérôme Anthony, qui est très drôle.
Qui est assez drôle, effectivement. Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Ça va occuper une grande partie de votre débat à partir de 11h. En effet, à moins de 11 jours du retour en classe, le débat fait rage sur la contamination des enfants ou pas. Et puis depuis lundi, cette découverte donc d'une maladie rare qui remet en cause tous les pronostics. Le docteur Sarah Burso, qui est pédiatre, était hier dans Touche pas à mon poste et en disait quelques mots sur cette maladie dite de Kawasaki.
Il y a une alerte, il y a des cas. Il y a une recrudescence de ces syndromes de Kawasaki avec des problèmes cardiologiques et d'inflammation, c'est très surveillé. Alors, des cas, c'est très peu. Hein. Donc, on parle de 20 cas, et encore, on ne les a pas eus en Chine, mais on en a quelques-uns en Angleterre. Donc, c'est possible, en tous les cas, on ne sait pas si le coronavirus ne serait pas lié à cette augmentation des cas.
Autre sujet, toujours évidemment sur le déconfinement, la circulation dans les transports publics. Alors hier, le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, a été très clair sur France 2. Ça sera obligatoire, mais c'est vous qui payerez.
Il y aura peut-être le premier jour quelques appoints qui seront faits par les opérateurs, par les régions. C'est ce que nous travaillons actuellement. Mais effectivement, vous devez vous munir d'un masque pour emprunter le métro à compter du 11 mai. Et puis effectivement, notamment les jours d'après, il y aura des sanctions pour ceux qui ne respectent pas le port obligatoire du masque.
Il y aura donc des amendes qui vont tomber. Alors du coup, il va falloir
Alors qu'on nous a quand même dit que le masque ne servait à rien, je vous le rappelle. Hein. Au début, on nous a dit que le masque ne servait à rien. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on aura une amende si on ne porte pas de masque. Voilà, et ça va aller comprendre quelque chose.
Et du coup, il va falloir en acheter des masques. C'est un énorme marché. Ouais. Et la grande distribution se met en ordre de marche, justement. Dès le 6 mai, vous pourrez acheter dans vos grandes surfaces comme Carrefour votre masque. Son président, Alexandre Bompard, a annoncé les tarifs hier sur BFM.
Le prix sera inférieur à 0,60 euros.
Hein ? 0,60
le masque.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est les.
Lequel ? Le petit chirurgical bleu traditionnel.
Le masque chirurgical. Voilà. Ça, on en aura 175 millions. Il y a 50 millions de masques qui vont arriver aussi, qui sont les masques en textile. Ceux-là auront un prix qui sera compris entre 1 euro pour certains masques et 3 pour un certain nombre de gammes.
Et pour être juste également...
Alors juste, effectivement, certains hier sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu, se sont interrogés après cette interview de
sur comment
d'Alexandre
ils se les procurent.
Bah, c'est pas ça, sur le fait qu'il ait stocké 175 millions de masques chirurgicaux
alors,
depuis le début du confinement.
Alors sachez que, je ne savais pas que vous parleriez de ça, mais je l'avais mis de côté, sachez qu'il en a acquis 225 millions, Leclerc et les magasins Leclerc en ont acquis 170 millions et Intermarché 100 millions. C'est-à-dire qu'à E3, il y a plus de 500 millions de masques qu'ils ont pu récupérer. Là aussi, on peut se poser des questions.
Ça interroge, ça interroge, effectivement.
Déconfinement touche. Oui, dites-moi, madame.
Allez-y, non, allez-y.
Bon. Déconfinement toujours. Hervé Morin, président de la région Normandie, lui ne comprend pas pourquoi des endroits peu touchés ne peuvent pas réouvrir ses bars et ses restaurants.
En Charente, on a aujourd'hui 2 personnes hospitalisées pour 100 000 habitants. En Charente, il doit y avoir 300, 350 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a moins de 10 personnes hospitalisées pour Covid. Je dis qu'on aurait dû expérimenter dans les départements où le virus aujourd'hui circule très peu, la réouverture des bars, des restaurants et, j'allais dire, de la vie sociale.
Et oui, là aussi, il y aura débat. Alors, attention, alerte Covid. Vous avez vu, entendu 1000 fois ce message, Valérie, d'information à la télévision. Eh bien, c'était-vous à rencontrer la voix off de ce message et vous allez voir, c'est rigolo, il est habitué aux messages de crise.
Ils m'ont demandé de faire un message beaucoup plus anxiogène et beaucoup plus ferme, ce que vous entendez actuellement. Et j'ai souvent fait des voix de crise, j'ai fait la voix Crédit Lyonnais, votre banque vous doit des comptes, qui était juste après la crise du Crédit Lyonnais.
Votre banque vous doit des comptes.
Et j'avais fait une voix au moment de l'Erica pour Total, donc je sais pas pourquoi on fait appel à ma voix quand il y a une crise.
Alors c'est plutôt rigolo. Et puis alors, c'est passé totalement inaperçu. Rien dans vos journaux, rien dans les chaînes info. Mais hier, on fêtait les 75 ans du droit de vote des femmes. Le 29 avril 1960. Non, j'ai écrit 75, doit être 45.
C'est pas ça, c'est 45. C'est
29 avril 1945. Et vous allez voir, à l'époque, dans les journaux, ça ne faisait pas l'unanimité.
La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette, la bonne religieuse, une gentille maman.
Je trouve cela ridicule pour une femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a assez à faire à sa maison, s'occuper de son ménage, son foyer.
Vous pensez qu'une femme n'a pas le droit justement de se mêler à la politique ?
En principe, elle n'y comprend rien, elle juge selon son mari.
Ah, les temps ont bien changé. Alors, pour finir, Valérie, peut-être vous ne savez pas quoi regarder à la télé parce que vous avez tout vu. Je vous conseille le petit tuto, le petit conseil cinéma de Marine Le Pen.
Pour ceux qui sont plutôt films d'action, Fast and Furious 8, je vous le conseille vivement. Ça dépote, comme on dit. Et c'est vraiment... j'aime bien, moi. Fast and Furious, c'est un des, une des séries de films d'action que j'apprécie beaucoup.
Et ben voilà, c'était,
voilà, c'était
le conseil,
le petit tuto de Marine Le Pen.
Elle a aussi posté hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, une photo des petits bébés de sa chatte. Elle a posté une photo, oui, de sa chatte avec des bébés. Voilà, elle a eu quatre petits chatons hier. Elle a dit que ça lui avait pris la journée et que parfois il y avait des priorités dans la vie. Donc voilà, on rentre dans
des choses. On rentre dans l'intimité des
politiques. Voilà, Corinne, ça l'a fait beaucoup rire. Et puis Cédric nous dit, il y a des débiles qui vont se jeter sur les masques comme pour le PQ et tout dévaliser. J'entendais le patron de, je crois que c'était d'Intermarché, qui expliquait quand même qu'il allait y avoir des je crois qu'on va vous envoyer des SMS. Enfin, il va y avoir des, il va falloir s'inscrire. Ça va être.
Alors chez Carrefour,
un petit peu...
chez Carrefour, les masques vont être aux caisses. Ils vont pas être en rayon pour éviter ce phénomène-là. Ils seront en caisse et en fait, ça sera deux paquets de 5 par personne.
Ouais, bon.
Et c'est pour ça qu'ils ont mis aux caisses.
Stéphane Bern est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous? C'est la question qu'on pose en premier maintenant. Enfin, on la posait déjà beaucoup avant, mais encore plus. Comment allez-vous, cher Stéphane?
Moi, ça va. Je dois dire, je ne suis pas à plaindre parce que j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Je me suis là depuis, ça va faire 2 mois. J'étais venu voter juste à la campagne et j'en suis jamais reparti. Donc au moins, j'ai des poules qui me font des œufs et je suis très bien. Maintenant, voilà, ce qui est difficile, c'est de plus pouvoir tourner. Enfin, je travaille dans mon bureau, mais tout va bien, franchement.
Oui, vous allez bien et vous êtes donc confiné à la campagne. Vous êtes sur une radio concurrente et vous animez votre émission, vous aussi, confiné, c'est ça?
Oui, exactement, avec une ligne qu'on m'a installée. Donc je peux faire du radio-travail. Il y a que le télétravail qui est difficile, puisque faire de la télé. Enfin, cela dit, peut-être que les chaînes vont changer parce que maintenant on fait tout avec
vous
son téléphone portable.
Absolument, vous voyez comment les émissions s'adaptent, qui veut gagner des millions, Cyril Lignac maintenant, voilà, tout se fait à domicile. Alors là, pour les deux émissions dont on va parler, ce serait un petit peu plus compliqué. Laissez-vous guider, la folle aventure du Paris Haussmannien, donc, que vous présentez avec votre compère Laurent Deutsch, absolument. Et puis le 16 mai, l'Eurovision Europe Shine a Light. Alors à préciser que déjà, laissez-vous guider, la folle aventure du Paris Haussmannien, ça a été tourné avant évidemment la crise du Covid.
Exactement, ça a été tourné à l'été dernier, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Il faisait d'ailleurs très très chaud dans Paris. Et puis, il y a toute une partie, donc on nous voit déambuler comme ça dans Paris, et on reconstitue en 3D, avec la réalité augmentée, des monuments parisiens qui ont disparu, où on voit la construction aussi de l'Opéra Garnier, par exemple, mais également le Palais Omnibus, qui était... C'est une chose incroyable au Champ de Mars. On découpe la façade d'un immeuble haussmannien, on revive les grandes heures des Champs-Élysées et des Halles Baltard, enfin des Halles avant. Et tout cela fait en 3D. Et c'est une promenade, j'allais dire, touristique et très amusante. On apprend plein de choses en se divertissant avec Laurent Deutsch, qui est aussi intarissable que moi. Et donc, c'est une sorte de défi qu'on se lance, de celui qui en saura le plus et pourra en raconter le plus aussi.
C'est vraiment.
Les images sont incroyables. Ouais, on a pu voir la reconstitution. Enfin, les images de reconstitution sont absolument sidérantes.
Ah oui,
oui, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on est très étonné par la qualité, par le réalisme de ces images.
Exactement. Et c'est assez fabuleux techniquement. C'est une prouesse technologique parce que ça nous permet aussi de rentrer dans les monuments qui sont ainsi reconstitués. On pouvait les montrer avant, mais on ne pouvait pas y entrer et continuer à jouer notre rôle. Ce qu'on continue à faire dans l'émission. Ce qui est fabuleux, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que le Paris de Haussmann, c'est la plus grande révolution dans Paris depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est vrai que Paris était devenu un coupe-gorge, il fallait absolument mettre de la propreté, de l'hygiène. Il y avait déjà des risques d'épidémie à l'époque, et donc il a fallu installer tout un réseau d'eau, les égouts, le gaz, mais aussi la voirie n'existait pas, donc on a créé tout ça. C'est le baron Haussmann, à la demande de Napoléon III, qui a fait cette révolution, et depuis, Paris n'a pas vraiment changé, au fond.
Oui, quand on voit effectivement... Oui.
Oui, non, c'est ce que j'allais dire. En fait, lorsqu'on regarde l'émission, on voit bien que tout, on a hérité en fait du baron Haussmann, oui. Et tout le côté sanitaire et de façon de circuler dans les rues de Paris, on le doit au baron Haussmann. Mais oui. Il faut dire en effet, Valérie, que les images, elles sont incroyables parce que oui. La réalité augmentée permet aussi de rentrer dans des bâtiments tels qu'ils étaient avant. C'est-à-dire absolument. Que maintenant, on peut les visiter vieillis et parfois en ruine. Là, c'est tel qu'ils étaient avant. Vous les voyez quand vous tournez ou vous savez dans quelle image vous êtes, on vous raconte et vous tournez et c'est fait après?
Non, on a les deux. Alors on tourne d'abord sans qu'il y ait rien. Si on voit la différence, je pense toujours à cette histoire aux Halles, par exemple, devant la canopée, devant le trou des Halles. Enfin, pardon, mais on a construit des choses immondes. Valait mieux garder les. Valait mieux garder nos pavillons Baltard. Enfin, bon, bref. Et donc ensuite, vous tournez. On vous montre sur une grande caméra, enfin un grand écran. On vous montre les pavillons de telle sorte qu'on puisse se repérer et d'avoir des marques comme ça qui nous permettent de déambuler. Et on voit la différence entre la réalité d'aujourd'hui et ce qu'étaient les monuments qui ont disparu. Mais vous savez, c'est grâce à cause de la destruction des pavillons des Halles Baltard qu'on a protégé, notamment il y a eu Mick Jagger, il y en a beaucoup qui se sont mobilisés dans les années 70 pour protéger la gare d'Orsay. Faute de quoi, oui. on aurait détruit la gare d'Orsay et adieu le musée qui aujourd'hui fait l'une des gloires de notre capitale. Non, c'est une histoire de Paris Haussmann, c'est absolument fascinant. Le plan de découpe racontait comment on vivait dans les immeubles haussmanniens et comment on vit toujours cette mixité sociale entre le rez-de-chaussée et les chambres de bonne, comme on les appelait au dernier étage. C'est fascinant, j'ai appris 1000 choses et ça m'a passionné, et y compris d'aller voir le fantôme de l'opéra.
Comment est-ce que vous travaillez? Ah oui, comment est-ce que vous travaillez avec Laurent Deutsch? Vous la préparez comment l'émission? Et que je voulais savoir comment fonctionnait votre duo déjà. Est-ce que alors, vous voyez en dehors? Est-ce que vous êtes copains?
Est-ce que vous détestez?
Non, on ne déteste pas. On est copains dans la vie. En même temps, je le vois modérément parce que d'abord il est très occupé. Et j'ai hurlé de rire. On se prétend ni historien ni l'un ni l'autre, je le rappelle.
Parce oui, que vous avez été attaqué, critiqué, oui, effectivement.
Moi, je suis animateur télé, lui, comédien. Point. Voilà. Ouais. Et puis, on ne met pas nos idées. Quand on fait des émissions, on essaye de faire rêver et rire ou amuser ou intéresser le public. Point. Ça s'arrête là. On n'a pas d'autres ambitions. Et puis, ce qui est amusant, c'est qu'on se prépare en amont. Chacun étudie sa partie. Et puis ensuite, on se concerte, mais on se garde des biscuits, on se garde des munitions pour se surprendre l'un l'autre. Et alors, oui. On ne sait pas à quel moment l'autre va dégainer ses munitions parce qu'on est un peu cabot, évidemment. Oui. C'est une sorte de défi permanent et de challenge. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette émission. C'est la promenade de deux compères qui ont les mêmes passions pour l'histoire et le patrimoine et qui essayent de raconter en s'amusant.
Vous avez vous avez appris des choses ou pas en préparant cette émission?
Ah oui, le palais Omnibus, ouais. Je n'en avais jamais entendu parler.
Non, absolument.
C'est cette gigantesque construction au Champ de Mars de 1867, c'était pour l'exposition universelle de cette époque, et c'était un palais aux proportions démesurées, c'est ce qu'il a détruit d'ailleurs. Je l'ignorais. Et au fond, on a construit après la tour Eiffel en 1889 en pensant la détruire aussi. Et puis, on a gardé la tour Eiffel, mais on n'a plus le palais Omnibus. Mais je ne savais absolument pas qu'il existait. Je n'avais jamais entendu parler.
Et vous l'avez reconstitué. Enfin, il a été reconstitué pour l'émission.
Ah, mais c'est le gigantisme à la française. Hein.
Ouais. C'est incroyable. On va dire aussi, c'est
vraiment à découvrir. C'est une balade, alors juste secret d'histoire, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus tourner.
Alors j'en ai tourné quelques-uns, il y en a un qui est diffusé lundi sur France 3 à 21h, c'est sur Sainte-Thérèse de Lisieux. J'ai pu tourner et c'était unique au monde. J'ai pu tourner dans le Carmel. Les sœurs carmélites m'ont autorisé à y entrer, donc je suis entré au Carmel. C'est avec la bénédiction, si je puis dire, de l'évêque. Et vraiment, ça a été un moment très émouvant d'être dans la basilique, de raconter l'histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une des saintes. En même temps, c'est un secret d'histoire. C'est pas secret de religion. C'est pour ça qu'elles nous ont autorisé. Donc c'est... Et j'ai fait un Beethoven, mais il manque un ou deux sujets, donc il va être diffusé, je l'espère, assez vite. Et puis, je suis bloqué par... j'ai 6 secrets d'histoire qui devaient se tourner, l'un à Turin, l'autre à Bruges, un autre... évidemment, les voyages. Donc, on a changé notre fusil d'épaule. On remet à l'année prochaine les secrets d'histoire à l'étranger et on va tourner des secrets d'histoire en France.
Il y a beaucoup à faire.
On tourne les jours de fermeture. Donc, il suffit qu'on garde les règles sanitaires avec les... avec mes l'équipe technique, et puis voilà, mais bon.
Vous regrettez pas d'être passé de France 3, de France 2 à France 3, parce que vous aviez plus de monde sur France 2.
J'ai un vrai rendez-vous. Mais, c'est-à-dire que sur France 2, on diffusait des secrets d'histoire de façon un peu bouche-trou, si vous voulez. C'était sporadique, voire erratique.
Oui, Donc,
maintenant, il y a un vrai rendez-vous. On sait que c'est lundi soir. Alors, il y a beaucoup de rediffusions, mais écoutez, je suis assez frappé parce que chaque rediffusion fait plus de 2 millions de téléspectateurs. Donc, si vous voulez, au bout du compte, quand vous additionnez, là maintenant, elle a fait au moins 10 millions de téléspectateurs. Louis XIV en est à 20 millions. Donc, moi, ça m'enchante où les gens les re-regardent, ou en tout cas, ils les découvrent pour la première fois. Je trouve que c'est bien sur le service public de mettre des émissions qui sont absolument divertissantes et en même temps, c'est de l'histoire. Il y a plus tellement.
C'est grand public. Et c'est ce que vous réussissez à faire, c'est-à-dire à nous emmener, à nous prendre par la main et à nous faire découvrir l'histoire de façon ludique. Et donc on apprend tout en se divertissant et c'est ce qu'il y a
absolument
de mieux finalement.
Évidemment, j'ai la partie classique, d'autres sur la chaîne font la partie contemporaine, ça répond un peu, je sais que Alexis Corbière de temps en temps me reproche de ne parler que des royautés. D'abord, je lui répondrai que d'une part c'est ce qui marche le mieux malheureusement, et que même sur France Télévisions il faut faire de l'audience, un minimum, vous voyez, sinon on garde pas les gens dans les cases, hein. Et que chaque fois que j'ai fait Danton, Robespierre, les femmes de la Révolution, le public boude un peu. D'autre part, comme j'ai la partie classique, c'est toute la partie avant la Révolution en général. Donc, évidemment, il y avait moins de République. Mais cela dit, c'est vrai que c'est intéressant de faire partager ma passion de l'histoire avec le public sans donner de leçons, sans prendre parti d'aucune façon. Et c'est un rendez-vous maintenant tous les lundis soirs.
Alors, juste quelques mots quand même, on va parler de l'Eurovision, Europe Shine a Light, ce sera le 16 mai, on sait que l'Eurovision 2020 qui devait se dérouler à Rotterdam...
Mais on a privé Stéphane Bern de Coffee Shop, il doit être déçu.
Voilà, vous ne pourrez pas aller à Rotterdam.
Je ne peux pas aller à Rotterdam. Je fais ça depuis un studio de France Télévisions. Écoutez, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Et donc, pour maintenir la continuité du concours, il y a une grande émission qui est faite par l'UER, donc les chaînes publiques européennes, c'est de faire un grand concert, une grande émission, que sur France 2, on va améliorer, j'allais dire, parce que le festival est donné pour 2 heures, de 21h à 23h. Nous, on va prendre l'antenne un peu avant, je serai entouré d'anciens commentateurs de l'Eurovision, et puis de chanteurs, de stars françaises ou internationales qui ont participé à l'Eurovision. Et puis ensuite, après le show, ou pendant lequel les artistes pourront interpréter une partie de leur chanson. Évidemment, sur 2 heures, on n'a pas le temps de tenir un spectacle qui normalement dure 4 heures. Donc, il y aura des extraits, des clips, et tous les artistes vont chanter tous ensemble une chanson, Shine a Light. Et puis enfin, Philippe Tullier a fait un documentaire sur l'histoire de l'Eurovision qui sera diffusé en deuxième partie de soirée sur France 2. Donc c'est toute une soirée d'Eurovision. Et puis on se donnera rendez-vous à Rotterdam l'année prochaine en 2021.
Et ben voilà, écoutez, il y a encore du boulot. Merci beaucoup Stéphane.
Merci beaucoup Stéphane Bern.
Donc on vous retrouve ce soir, laissez-vous guider la folle aventure du Paris haussmannien. Stéphane Bern, Laurent Deutsch avec des images en réalité augmentée qui sont époustouflantes. Vous allez découvrir plein de choses. Merci beaucoup. Et puis le 16 mai, on aura l'occasion d'en reparler. Eurovision, Europe Shine a Light. Portez-vous bien Stéphane Bern. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de la réouverture de nos coiffeurs le 11 mai. Et puis de cette maladie qui touche les enfants avec des inquiétudes. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va parler de la réouverture des coiffeurs à partir du 11 mai. Peut-être deux petites infos, Gilles, d'actualité.
Deux petites infos. Je vous propose le Cirque Phoenix, vous savez, qui est un cirque sans animaux, mais avec un tas d'acrobates et avec des artistes venant de Chine. Eh bien, le Cirque Phoenix est lui aussi à la maison. Donc, si vous avez des enfants, eh bien, tous les vendredis, c'est-à-dire demain à 15h, vous pouvez visionner en direct durant 1h30 des spectacles. Entre autres, il y a le spectacle du Petit Dragon, qui est interprété par les Étoiles du Cirque de Pékin, qui avait été filmé lors de leur venue à Paris. Et vous avez un tas de numéros d'acrobates et de cirques, et aussi le Cirque Africa. On voit ça sur YouTube. Je vous mettrai le lien de YouTube. Vous pouvez aller sur la chaîne du Cirque Phoenix en tapant le Cirque Phoenix dans votre barre de recherche de YouTube. C'est la chaîne. Et donc, si les enfants veulent voir du cirque, on sait qu'ils aiment bien les acrobates, les clowns. Eh bien, ils peuvent voir ça tous les vendredis à 15h. Et puis demain, c'est le 1er mai, Valérie. Je pourrais peut-être vous offrir un brin de muguet à distance.
J'espère bien.
Il y a plein de magasins qui le font, mais le premier, évidemment, c'est Interflora, évidemment. Et Interflora, donc, a mobilisé ses fleuristes pour demain, pour livrer à domicile. Alors, cette gamme, elle est uniquement composée par le territoire national et par, évidemment, les agriculteurs.
En gros, c'est du muguet français.
C'est du muguet français, oui, madame. Et puis, également, alors, ils ne vont pas vous livrer un brin, évidemment, puisque le brin à la sauvette ne se vend plus, mais ce sera des bouquets de brins de muguet dans un pot et avec également des fleurs qui sont disponibles chez le fleuriste parce qu'ils ne sont pas tous achalandés. Et ce pot, et bien sûr ce pot, 3 euros sont versés à la Fondation de l'Assistance Publique. Donc c'est continuer à s'offrir du muguet en faisant un beau geste. C'est évidemment, on peut commander sur le site d'Interflora, mais il y a également, il n'y a pas qu'Interflora, je le cite là parce que c'est un exemple, mais on peut également aller voir ceux qui vont s'occuper du muguet demain.
Merci Gilles, on vous retrouve demain.
Nous, on est en ligne avec Baptiste Jabiconi demain.
Ah oui, Baptiste Jabiconi demain. Merci Gilles, bonne journée. On est en ligne avec Alain Viaud, bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour, vous êtes le PDG des salons de coiffure Mods Air et Lucie Sinclair. On a beaucoup parlé des coiffeurs pendant ce confinement. C'est peut-être ce qui a fait, pas le plus parlé, mais ce qui a fait beaucoup parler et ce qui a beaucoup manqué à une grande majorité de Français. Petit clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon, hein, qui avait les cheveux un petit peu longs, je pense que vous en avez pensé. Vous l'avez vu, Jean-Luc Mélenchon, avec ses cheveux longs?
Oui, tout à fait. Et comme beaucoup de nos clients, ils s'impatientent de pouvoir retrouver leur coiffeur.
Oui, alors donc vos deux marques, Motzer et Lucie Sinclair, se préparent à réouvrir. Racontez-nous un petit peu déjà comment vous avez vécu le confinement. Vous avez été obligé de fermer vos salons rapidement. Quelles conséquences ça a eu?
Ben, tout à fait. Vous pouvez imaginer la gestion de crise qu'on a subie, puisque du jour au lendemain, on a dû fermer nos salons et depuis 2 mois, on ne fait 0 chiffre d'affaires. Heureusement, les mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement nous ont permis de préserver de la trésorerie et en particulier de pouvoir payer nos coiffeurs, ce qui est essentiel puisque c'est eux qui sont le cœur de notre métier. Voilà, donc une première période, on a dû gérer la crise et depuis quelques jours maintenant, voire semaines, préparer activement la réouverture des salons qui est prévue normalement le 11 mai.
Pourquoi vous dites normalement? Il y a des doutes encore?
Oh ben vous savez, il y a des discussions en cours, mais a priori, tous les signes sont positifs et en tous les cas, nous, on sera prêts pour accueillir nos clients.
Alors, dites-nous un petit peu comment ça va se passer, justement, parce que le coiffeur, justement, c'est difficile de respecter une distance d'un mètre quand on vous fait un shampoing ou quand on vous coupe les cheveux. Alors, comment est-ce que vous allez faire et quelles sont les mesures qui vont être mises en place?
Alors, nous avons préparé un protocole d'hygiène sanitaire très strict, avec toutes les mesures que vous imaginez. Masque obligatoire pour tous, pour les coiffeurs, masque et visière, désinfection systématique de tous les équipements du salon, de tout le matériel des coiffeurs après chaque client. organisation de la circulation pour bien respecter les distanciations physiques. Et puis malheureusement, il y a quelques petits services qu'on ne pourra pas mettre en place, comme pas de magazine, pas de boisson, tout ce qui pourrait représenter un risque.
Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, les magazines que vous offrez, que vous proposez à vos clients, sont porteurs, peuvent être vecteurs de contamination.
Exactement. Donc, c'est toutes les précautions qu'on doit prendre, y compris l'organisation du vestiaire, etc., etc. Donc, tout ça est prévu dans des documents de plusieurs pages. Nous avons formé nos équipes.
Qui est commun à tous les coiffeurs ou pas ? Est-ce qu'il y a je ne sais pas s'il y a un syndicat des coiffeurs. Est-ce qu'il y a des consignes qui sont générales, qui sont données à tous les coiffeurs de France ?
Tout à fait. Nos représentants de la profession ont discuté avec les autorités pour mettre en place un protocole très strict qui répondait à la sécurité nécessaire forcément de l'exercice du métier de coiffeur. Je dois dire qu'il y a eu un très bel élan de solidarité de tous les représentants, de toutes les enseignes de coiffure, pour participer à cet effort majeur pour pouvoir assurer l'accueil et la protection de nos clients et de nos coiffeurs, bien sûr.
Et des coiffeurs aussi, évidemment. Donc, ils vont avoir des masques, des visières. Comment ça va se passer ?
Tout à fait. Ils auront des masques et des visières. Tous, et bien sûr. Bon, alors, dans les salons de coiffure, l'hygiène, ça fait partie de notre quotidien. Hein. Les coiffeurs passent leur journée dans l'eau. Mais là, on a renforcé ces protections avec notamment les masques et les visières. Le gel hydroalcoolique pour tous et les clients, bien sûr. Voilà tout ce qui est nécessaire pour éviter la propagation du virus.
En termes de rendez-vous, en termes de clients, vous allez en prendre moins. Comment ça va se passer l'organisation aussi ? C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer dans un salon, dire est-ce que vous pouvez me prendre maintenant ? Est-ce que ça va être encore possible ? Ou est-ce qu'il va y avoir un contrôle beaucoup plus strict des rendez-vous ?
Alors beaucoup plus strict en effet. Prise de rendez-vous obligatoire. Gestion du nombre de clients pour assurer la distanciation physique dans le salon. On a prévu aussi un temps supplémentaire pour les prestations parce qu'il y a un temps forcément de désinfection. Donc on a tout réorganisé, les équipes, mais pour répondre à la demande de nos clients, qui je sais est assez importante, on a élargi les horaires d'ouverture, donc on ouvrira plus tôt et on fermera plus tard.
Et les équipes
sont mobilisées là-dessus et répondent en priorité aux demandes des clients qui sont nombreuses, on les a au téléphone pour préparer cette réouverture.
Et est-ce que justement vous sentez un afflux de prises de rendez-vous ? Est-ce que déjà vos clients vous appellent ?
Tout à fait, oui. On a maintenu le lien avec nos clients pour leur donner des conseils d'entretien de leurs cheveux, éviter des dommages.
Vous avez peur des catastrophes ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quelques catastrophes ?
C'est notre métier de faire un diagnostic dès le début, de voir ce qu'il est nécessaire. C'est clair mais on fera le maximum pour pouvoir refaire la beauté des cheveux de nos clients.
Oui, bon, c'est récupérable. Il faut dire aux gens qui ont, comme moi, coupé leur frange un peu trop courte ou un peu trop droit, ça repousse et puis après les coiffeurs seront là. Vous êtes également engagé, vous avez envie vous aussi de vous engager de façon solidaire pour nos soignants et vous allez proposer 30% de remise, c'est ça, dans certains salons, Lucie Sinclair ?
Et Mozart. Tout à fait, pour les remercier de leur travail. Et je sais qu'ils ont besoin de ce moment de remise en beauté, un peu de bien-être et qu'on s'occupe d'eux. Et donc, on les accueillera avec grand plaisir.
Donc, 30% Salon Mozart pour les soignants que vous avez envie d'aider. Écoutez, bon courage à vous pour la suite parce que vous allez avoir effectivement tout un travail de mise en place assez important avec évidemment une responsabilité comme beaucoup de commerces qui vont réouvrir le 11 mai. Merci beaucoup Alain Viau d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, PDG des salons de coiffure Mozart et Lucie Sinclair. Merci à vous.
Merci de votre accueil.
Merci. Merci. Et nous, on se retrouve dans un instant avec Stéphane Dau, chef du service de réanimation pédiatrique pour parler de cette maladie dont sont touchés un certain nombre d'enfants. C'est une maladie qui était relativement exceptionnelle et qui est depuis quelques jours un petit peu plus fréquente. Quel lien avec le Covid-19? On en parlera avec lui. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, Stéphane Dauger est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour, vous êtes chef du service réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Je voulais vous interroger ce matin à propos de l'apparition dans plusieurs pays d'Europe de syndromes inflammatoires plutôt graves chez des enfants de 8 à 14 ans. Vous avez pas mal communiqué depuis hier sur ce syndrome qui est apparu encore une fois chez des enfants et qui pose la question du lien avec le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, vous, ce que vous avez constaté dans votre hôpital ?
Oui, madame. Écoutez, nous avons communiqué, les collègues réanimateurs pédiatriques, essentiellement d'Île-de-France, mais quelques collègues français aussi avaient eu des cas un petit peu de ce type-là. L'idée était de faire remonter le message, et il faut déjà mettre ça tout de suite en lumière, le faire remonter le message à vos collègues de première ligne, aux urgences ou au SAMU, aux médecins généralistes, de faire attention, puisque au milieu du peu d'enfants qui sont concernés par le Covid, cela reste vrai. Au milieu du peu d'enfants qui font des formes graves, ça reste vrai à ce jour. Encore, il y a quelques enfants qui ont effectivement une espèce de que ce qu'on qualifie aujourd'hui d'une réponse inflammatoire très forte, dans lequel certains d'entre eux, et même dans ce groupe-là, pas tous, ont le cœur qui est fatigué pendant quelques jours. Voilà exactement l'état des lieux de nos connaissances à ce jour. C'est exactement ce que aussi ont constaté nos collègues espagnols, anglais, italiens. Voilà. Donc alors, ces enfants ont besoin d'une...
Oui.
Alors, on parle encore d'un syndrome de Kawasaki. Certains collègues disent même Kawasaki-like. Moi, je suis réanimateur et pas un spécialiste d'infectiologie ou de rhumatologie pédiatrique. C'est une maladie purement pédiatrique qui touche plutôt les enfants de moins de 5 ans, dont on ne connaît pas complètement la physiopathologie, donc le mécanisme, et qui se manifeste par un ensemble de signes quand on a une fièvre persistante au-delà de 5 jours et qu'on ne retrouve pas d'autres causes à tout ça. Et donc, dans les enfants que l'on a observés et que nos collègues ont observés aussi, il y a des enfants qui ont tous ces signes qui font penser à cette maladie, d'autres qui ne les ont pas tous. Et donc, nous sommes vraiment, pour l'instant, dans une interrogation. La première étape, c'est vraiment de repérer ces patients-là, de les surveiller, d'être prêt à les surveiller, voire à les prendre en charge correctement dans le service de réanimation. Et la deuxième, qui a déjà commencé depuis quelques jours et qui continue, c'est de colliger tous les cas, pour essayer effectivement d'en comprendre un peu plus, de comprendre quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ces enfants ont fait le Covid ou pas, quel était le contexte, combien de temps ça a duré. On est dans cette phase-là. Donc la phase initiale, c'est bien évidemment de mettre ces enfants en sécurité quand ils ont cette forme. Ça représente peu d'enfants, mais effectivement, des enfants avec un cœur qui marche moins bien d'habitude, qui arrivent dans un tableau identique pour un autre virus, on en a 3 ou 4 par an sur 1200 séjours d'habitude. Et là, effectivement, pour Robert Debré, on en a eu 4 en une semaine, et ce qui est exactement ce que nos collègues ont observé aussi. Donc, le lien avec ce qu'il s'est passé est assez clair. Le mécanisme, est-ce que c'est le virus lui-même? Est-ce que c'est autre chose? Pour l'instant, on ne sait pas dire.
Oui, vous dites Kawasaki-like parce que c'est pas donc comme la maladie de Kawasaki, parce que ça y ressemble, mais pas complètement. Déjà, cette maladie, le nom de Kawasaki, peut-être que vous pouvez nous dire d'où ça vient.
C'est une maladie pédiatrique. Alors, c'est une maladie pédiatrique décrite il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, pour l'instant, on n'a pas complètement les mécanismes qu'on connaît bien en pédiatrie, parce que je vous l'ai dit, elle touche plutôt les enfants beaucoup plus jeunes, et les hypothèses actuelles seraient une réaction inflammatoire au niveau des vaisseaux, qui peut toucher donc plusieurs organes, et qui surviendrait après un épisode infectieux quelques jours ou quelques semaines avant. Et donc, là-dessus, il y a des formes qui peuvent se compliquer dans de rares cas, mais encore une fois, ces enfants viennent rarement en réanimation, ils sont suivis par nos collègues pédiatres. C'est un point majeur parce que là, sur tout le territoire, des urgentistes pédiatres, des services de pédiatrie générale peuvent très bien gérer ces patients-là. Mais chez quelques-uns d'entre eux, on peut avoir une complication vasculaire qui touche les vaisseaux qui amènent le sang au cœur, les coronaires, et qui, dans ces formes extrêmement rares, nécessite un traitement un peu plus compliqué encore. Là, ce qui est étonnant, c'est que on a décrit des formes qui peuvent y ressembler, comme je vous l'ai dit, sur les autres symptômes, l'éruption, donc les boutons, la langue très rouge, des conjonctives très rouges aussi, plus la fièvre, plus des ganglions. Mais on n'a pas retrouvé ces formes complètes chez tous les enfants. Et à ma connaissance, là aussi les choses changent à peu près tous les jours, on n'a pas diagnostiqué non plus une atteinte des vaisseaux qui alimentent le cœur. Donc vous voyez qu'on a des tableaux un peu différents sur des enfants qui se présentent plutôt a priori après l'infection. Mais même ça, aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut vraiment rester prudent. La chose importante, c'est de repérer ces rares patients et de les mettre en sécurité dans les services qui peuvent les surveiller, voire accélérer le traitement s'ils sont moins bien. Les discussions sont en cours sur savoir quels médicaments on leur fait actuellement. Il y a des formes qui sont très proches du syndrome de Kawasaki, pour lequel mais on applique les mêmes thérapeutiques. Et puis, il y a des formes qui s'en éloignent un peu, où on discute les médicaments qui sont testés contre le virus, si on a retrouvé le virus en grande quantité, et des médicaments dont on parle actuellement pour limiter l'inflammation. Tout ça est à ce jour, à ma connaissance, discuté au cas par cas. C'est les données européennes qui vont être partagées qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus.
Oui, il y a des pays où ils ont plus de cas qu'en France ? Que vous savez.
Alors, je ne sais pas vous répondre formellement parce qu'on a vu les alertes, mais moi, je n'ai pas eu de contact direct avec les collègues étrangers. Je sais que d'autres collègues en France sont en train de le faire. Je crois que ça reste quand même un nombre de cas assez rare. Oui, ça fait l'air très clair, mais comme encore une fois, un peu plus fréquent que d'habitude. Donc, sur cet argument-là, les inquiétudes ou en tous les cas la circulation d'informations. L'idée, c'est vraiment d'être vigilant, de ne pas non plus inquiéter les gens pour rien, mais d'être vigilant et d'avoir les moyens de surveiller ces malades-là pour, comme je vous l'ai dit, si besoin, au cas par cas, être plus agressif dans le traitement. À ce jour, à ma connaissance aussi, il n'y aurait pas eu, mais encore une fois, il faut faire attention, de décès induit directement par cette présentation. Là aussi, ça peut changer, mais c'est un point important.
Dans les cas que vous avez pu avoir, est-ce que c'était des enfants qui étaient bien portants, qui n'avaient pas d'autres pathologies?
Alors ça, c'est pareil, il faut faire attention. Moi, je n'en ai vu que quatre, encore une fois. Il n'y en a que trois personnellement, parce que mes collègues s'occupent des autres là actuellement. À ma connaissance, il n'a pas été mis en évidence aujourd'hui de facteurs prédisposants, de terrain particulier. C'est toujours très compliqué, ça aussi, tant qu'on n'a pas relié tous les cas, qu'on les a pas mis les uns à côté des autres pour les discuter avec tous les collègues qui s'en sont occupés. Donc là, il faut quand même en avoir plusieurs, pouvoir en discuter entre nous pour commencer à avoir des pistes. À ce jour, en tous les cas, je ne crois pas que quelqu'un ait vu des choses très particulières qui ferait penser que tel ou tel enfant le fait. Donc ça aussi, ça amène à la vigilance, à l'idée qu'il faut penser, qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais qu'il faut que les médecins de première ligne et les collègues qui s'occupent de ces patients qui ont de la fièvre, qui est quelque chose qui est fréquent, ils pensent. C'est ça l'idée.
Oui. Et donc les signes répétés peut-être pour les parents qui nous écoutent, qui légitimement peuvent être inquiets, c'est de la fièvre, vous l'avez dit, une langue très rouge, c'est vraiment un signe.
Alors, quand on a cette forme-là, c'est des choses qu'on peut voir. La fièvre, la grosse fatigue, a priori, il y a quand même beaucoup de gens qui ont décrit des troubles digestifs avec des douleurs abdominales, voire de la diarrhée, ce qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve formellement toujours dans le Kawasaki typique, par exemple. Ouais. Donc, je pense que ça, quand ça dure un jour ou deux, alors que l'enfant était plutôt bien avant, mérite un avis médical. Dans ce contexte, on est exactement là-dedans. Mais là aussi, un avis téléphonique d'abord, en fonction de l'évolution. Un examen clinique par des médecins qui ont l'habitude de voir des enfants, surtout si l'âge est petit. Et ça, c'est possible partout sur le territoire en France. Il y a des services de pédiatrie générale, des urgences avec des collègues pédiatres. Il y a des médecins généralistes qui ont l'habitude de voir des enfants. Et donc là aussi, il faut que les gens soient au courant qu'il n'y a pas besoin, heureusement, pour ces enfants d'aller en réanimation. Par contre, nous, il faut qu'on soit capable de les prendre s'ils ont besoin de la réa. Ça, c'est une autre question en Île-de-France qui est très importante.
Absolument, oui. Je voulais qu'on en parle de ça parce que la réanimation, je vous ai entendu dans une interview, la réanimation pédiatrique, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a que des pédiatres spécialistes qui peuvent le faire. Ce n'est pas comme de la réanimation pour adultes. Et ça nous ramène, il y a 6 mois, où vous aviez menacé de démissionner faute de place dans les hôpitaux parisiens. Enfin, il y avait un problème de toute façon à l'hôpital, c'est pas nouveau, mais vous alertez sur le fait que la réanimation pédiatrique, c'est très particulier et ça ne peut être fait que par des pédiatres spécialistes.
Oui, madame, c'est important qu'on parle de ça. Encore une fois, les messages importants, c'est ceux d'avant, de ne pas s'inquiéter outre mesure, d'être capable de repérer ses enfants. Là, ce message, il s'adresse d'abord aux pouvoirs publics, et puis deuxièmement aussi à la population qui nous soutient. Je ne parle que pour l'Île-de-France, les choses peuvent être un peu différentes selon les régions, mais je sais qu'il y a des régions, entre autres le Grand Est, qui ont été très exposées aussi, où les pédiatres et les réanimateurs pédiatres ont été en première ligne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Effectivement, la première remarque, c'est que nous, on est sur le pont depuis octobre 2019, avec les épisodes de bronchiolite, on en avait parlé, vous vous rappelez, des enfants qui ont été transférés, loin, 25 enfants qui ont été transférés loin de là, tout ça faute de lit. Faute de lit et faute de lit à cause d'un manque d'infirmières absolument majeur, et entre autres, même si ce n'est pas le seul problème, parce que les collègues continuent à avoir un salaire qui est absolument indécent. Alors dire ça aujourd'hui quand une crise économique majeure s'annonce, c'est compliqué. On est parfaitement conscient qu'il y a des gens aussi qui vont être dans des situations difficiles, mais on ne peut pas et on ne pourrait pas prendre en charge correctement des enfants avec uniquement 16 lits ouverts en réanimation pédiatrique alors qu'on a 20 places disponibles, faute d'infirmières. Et il n'y a pas de structures privées qui peuvent nous aider comme chez l'adulte. Les collègues de réanimation adulte ou d'anesthésie adulte ne peuvent pas et ne savent pas prendre en charge des jeunes enfants. Ce n'est pas une critique, hein, c'est un constat qui est comme ça, chacun son métier. Et donc là, ça nous met en difficulté. Donc il faut absolument arrêter de fermer des lits. Je pense que cette épidémie nous l'a montré. Il faut payer décemment les petits salaires de la fonction publique. Je rabâche la même chose et nous rabâchons la même chose depuis 6 mois.
Mais peut-être qu'aujourd'hui...
28e rang sur 32 des pays de l'OCDE. Pas de n'importe quel pays du monde, les pays de l'OCDE. Les infirmières sont payées 28e rang. Moi, j'ai des infirmières de 15 ans de métier qui n'arrêtent pas de me dire, même là, après 6 mois de travail intensif, après avoir eu 32 adultes dans le service et en repartant maintenant sur cette augmentation d'activité qui va lentement pour l'instant, et on espère que ça va s'arrêter. Je ne veux pas surfer sur le risque potentiel. Mais on ne peut pas d'un seul coup dire, après, on n'était pas au courant. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on le demande. Moi, je ne demande rien pour moi, et les meilleurs salaires ne demandent rien pour eux. On demande pour l'hôpital public et la population. Arrêtons de fermer.
Combien elles sont payées, les infirmières?
Qui commence en réanimation avec ce que ça représente, et pour la réanimation pédiatrique, c'est 1600 ou 1700 euros avec la responsabilité que ça représente. Et là, en ce moment, c'est des journées qui sont de 13 heures quasiment à chaque fois. Avec le risque, on en parlait encore dans mon équipe hier, parce qu'il y a un stress majeur que les gens nous reconnaissent quand ils nous applaudissent à 20 heures le soir. Je pense qu'il faut vraiment faire passer le message à nos autorités que les lits, arrêtez de fermer des lits, laissez la possibilité d'avoir la pré-réa, la post-réa, entre autres, pour surveiller ses enfants. Et dans les secteurs très exposés comme la réanimation, les adultes sont encore dans une situation compliquée, et ça, moi, je ne mets pas en concurrence. Les gens sont en train de sortir de réanimation, mais le post-réanimation, la rééducation est majeure chez les personnes adultes. Mais en pédiatrie, si nous étions confrontés à un afflux de patients important, eh bien, ce n'est pas possible d'avoir des lits fermés, ce n'est pas possible d'avoir des structures fermées, et là, on a besoin de gens très compétents. Garder nos infirmières, c'est d'abord commencer par le reconnaître et les payer correctement. Après, s'organiser, réfléchir, il n'y a pas de problème, moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Mais elles s'en vont, j'en ai encore 3 qui me l'ont dit hier, parce qu'elles sont mieux payées près de chez elles en Ile-de-France et que, eh bien, elles regrettent de partir, elles le regrettent, elles me l'ont dit, mais elles ne peuvent pas faire autrement. On est parti pour garder
Est-ce
le
que
COVID
vous pensez que cette crise peut faire changer les choses?
C'est-à-dire je ne vois rien venir, madame. Vous... Rien du tout. Ouais. Pour l'instant, que des mots. On a libéré beaucoup d'argent pour des grandes entreprises, et en tant que citoyen, je trouve ça tout à fait normal pour éviter de nombreux chômeurs absolument importants, et moi je n'ai aucun doute là-dessus, je ne suis pas économiste, mais je ne comprends pas pourquoi tout ce qui est dit depuis longtemps par deux. Vous avez dit menacer de démissionner, nous avons été 1300 sur tout le territoire à démissionner, et du jour au lendemain, on est revenu voir nos directeurs en disant on reprend, sans vous demander quoi que ce soit, nos fonctions pour aider à gérer la crise dans notre rôle de régulateur et de chef d'orchestre. Il n'y avait aucune question là-dessus. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas une seule main tendue pour dire on a compris, on ne peut pas faire tout de suite, mais on se retrouve dans une semaine, on va modifier la grille de salaire de la fonction publique et des infirmières. Entre autres, mais il n'y a pas que dans notre hôpital, comme dans tous les hôpitaux, tous mes amis racontent, que ce soit en province ou à Paris, les ouvriers, les personnels de structures qui permettent de tenir l'hôpital propre, on en parle sans arrêt. Donc les applaudissements, c'est super important, et on sait que la population nous soutient, c'est énorme. On reçoit des cadeaux, on reçoit à manger, on a ces applaudissements, on sort sur le parvis d'hôpital pour les entendre. Mais il faut que les petits salaires, je le dis bien, pas le mien, hein. Moi encore une fois, je n'ai pas de problème avec ça, mais que les petits salaires de la fonction publique, qu'on puisse garder nos personnels. On ne peut pas, et pour l'instant, il ne se passe rien.
Et que l'hôpital soit aussi, qu'il y ait une autre manière d'appréhender l'hôpital. Ce que vous racontiez à l'époque, j'ai retrouvé cet article de La Croix où vous disiez à l'époque que le SMUR tourne sur le périphérique avec 2 à 3 nourrissons. C'est invraisemblable d'imaginer qu'aujourd'hui on manque de lits dans des services pédiatriques. Et là, si effectivement ce qu'on ne souhaite pas, il y a de plus en plus d'enfants, en gros, vous ne pourrez pas faire face. C'est ce que vous nous dites quand même.
Alors c'est là aussi, il faut faire attention et on se battra jusqu'au bout pour faire tout ce qu'on a fait. Je dis juste que ça fait 6 mois qu'on se bat comme ça et que s'il s'avère que le Covid et que cette infection oblige à réorganiser l'hôpital, ce que nous sommes déjà en train de faire et ce que font les hôpitaux adultes, là aussi, il n'y a pas de concurrence. Ouais. Encore une fois, la seule concurrence, c'est que nous, on ne peut pas être aidés par les autres structures. C'est et ça. Les personnels ne peuvent pas venir nous aider. Une infirmière qui fait de l'adulte, même si elle n'est pas spécialisée de réanimation, va pouvoir s'adapter assez vite à venir aider en réanimation. En pédiatrie, en réanimation pédiatrique, c'est pas possible. C'est comme ça. C'est pas mieux ou moins bien que les autres. Il faut vraiment qu'on ait des solutions durables. Et encore une fois, attention, loin de nous l'idée que c'est que l'hôpital public, le système de soins français. Je pense que nous pensons que l'hôpital public est un point central, je crois que cette crise l'a montré, pour recevoir, et surtout en pédiatrie, les autres. Mais les collègues de première ligne, on en parlait tout à l'heure, les médecins généralistes, les autres structures qui accueillent des patients ou qui les détectent, sont largement aussi importantes. Mais le centre et le chef d'orchestre doit, surtout pour la pédiatrie et la réanimation pédiatrique, forcément rester l'hôpital public. Et il faut qu'on ait des signes forts pour garder nos personnels. Elles continuent à s'en aller. Elles n'attendent que d'avoir la possibilité que le plan de danse soit levé pour partir.
J'espère que votre appel sera entendu. En tout cas, on va le relayer sur Sud Radio. Merci de ce que vous faites.
Merci beaucoup, merci
à vous. Et puis, encore une fois, donc, on est en observation, vous l'avez dit, sur ce syndrome qui ressemble à celui de Kawasaki. Les parents doivent être vigilants s'il y a de la fièvre, une langue rouge, des yeux un peu conjonctivites, avec des conjonctivites. Et puis, les médecins effectivement être vigilants. Merci beaucoup, docteur, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. 0826 300 300, à tout de suite.